seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has put it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the floor.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time saison 3. Money Time, c'est votre émission basket sur graphique 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur Facebook et Insta, n'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter sans fin cette émission en streaming sur www.graphite.net. Et même parfois la podcaster sur Spotify. Alors aujourd'hui, émission spéciale dédiée aux grands du basket, les pivots. De 1990 à aujourd'hui, on va s'intéresser à ce poste phare de la balle orange, certainement le plus impressionnant avec ses dimensions XXL. Alors chaussez vos baskets taille 63 pour répondre à cette question qui nous taraude depuis un moment sur Money Time. C'est qui le plus grand pivot de tous les temps? Le GOAT. Au programme de cette émission, à nos chroniques habituelles avec l'actu de la balle orange, un petit retour sur les matchs de la nuit, le basket Ewan, et en deuxième partie d'émission, donc notre gros dossier, pivot qui est leur GOAT, avec notre classement des 10 meilleurs pivots sur les 35 dernières années. Et à buzzer beater XL cette fois-ci, la trade deadline peut-elle encore sauver la saison NBA 2025-2026? Ah, évidemment, je ne suis pas seul, messieurs. Et pour animer cette émission, un 5, alors un 5, non, un 4.
Un 4.
Il y a on a un blessé, voilà, Baptiste, qu'on salue. De grande taille, normalement, le 5. Ces écrans sont plus longs à contourner que le périphérique parisien un vendredi soir. Et sa vision du jeu peut évoquer l'œil gauche de Nikola Jokic dans le noir. Mehdi, salut.
Salut les potos. Detroit is number one.
Ouais, évidemment. Véritable free Angie, mais sans le free. Cet homme est comme Ben Wallace, un travailleur de l'ombre qui bosse pour faire briller les autres, mais qui s'avère indispensable au bon fonctionnement de l'équipe. Buffard.
Ah, oh, ben non, merci.
Ouais.
Merci, merci. Ouais,
ça, non?
Bon, je vais pas crier New York machin.
Non,
c'est pas premier. Ils sont troisième.
C'est pas mal, non, c'est pas mal.
Entre deux, il y a une autre équipe.
Les verts, les verts.
Il est plus dur à bouger que le Shaq, à qui il rend 1m20. Inusable, infatigable, voilà. Partout sur un terrain. Mais mal placé quand Maxime a la balle.
Ouais. Non, ah, mais t'es jamais bien placé quand Maxime a la balle.
Pourtant, tu bouges beaucoup.
Hein. Voilà. Coup, vous m'ayez pas au bon endroit.
Salut.
Bisous à Max. Du coup. Et enfin, pas le plus grand des sacs, mais certainement le plus sexy. Alors, en tout cas, plus sexy qu'Alonzo Mourning, capable de gratter des ballons dont personne ne veut. Wham pilotera l'avion ce soir.
Salut Wham.
Salut Wham.
Bonsoir.
Merci, merci. Et on commence tout de suite notre émission avec un gros, gros programme sur l'actu de la balle orange. C'est parti. Dans la rubrique de l'actu de la balle orange, on ne parlera pas ici du plateau du concours de dunk, avec ce qui sera sans doute une des affiches les moins sexy de l'histoire. Jugez plutôt Jalen Duren. Alors au moins lui, ouais, il est connu.
Oui, c'est ça.
Ouais. Voilà. Carter Bryant et Jackson Hayes. Autant dire que j'aurais presque mes chances.
Pas sûr non plus.
Pas sûr non plus. Non.
D'un concours de dunk, voilà, c'est qu'il faut savoir dunker.
Ce sera pas fou, mais c'est pas déconner. Ouais.
C'est vrai.
C'est quand même une base.
Mais bon, enfin,
tu vois que Brandon Sharp, il le fait pas avec le Thomas qu'il a encore mis.
Ouais.
Brandon Sharp,
ouais.
Qu'il a encore mis,
oui,
cette nuit.
Oui, il était méchant.
Faut qu'ils arrêtent. Les concours, faut qu'ils arrêtent. T'façon.
J'ai l'impression. Hein.
Ouais.
On parlera non plus. On ne parlera pas, pardon, non plus du All-Star Game qui reste pour moi la seule semaine de l'année où je ne souhaite pas entendre parler de basket. Voilà. Donc, on évoquera par contre, on commence. Enfin, on va pas commencer par ça, mais on évoquera dans cette rubrique les nominés quand même, parce que même si on ne gagne pas le match, ceux qui sont récompensés, c'est quand même...
C'est toujours cool de savoir.
Ça sera pas de savoir, voilà. Hein, c'est une récompense déjà.
En fait, tu regardes qui est là et tu regardes surtout qui n'est pas
qui
là.
Qui n'est pas là, voilà. Ouais, il y en a quelques-uns qui ne sont pas là.
Il y en a qui sont repêchés.
Et alors moi, j'ai pensé à Mehdi pour commencer, puisqu'on va parler de Paul George.
Oh, ah.
Et sa suspension de 25 matchs. Alors pour la NBA, c'est suite à une infraction au règlement antidopage. Pour Polo, ce serait lié à l'utilisation d'une substance.
Il le dit comme ça.
Aussi. Une
substance. Matchs.
Donc, ce serait lié à l'utilisation d'une substance prise dans le cadre d'un travail sur sa santé mentale. Alors là, on rigole. LSD, cannabis, protoxyde d'azote.
Il commençait à bien jouer quand même là.
Oui, mais c'est pour ça que la NBA a fait une
enquête. Il joue trop bien.
Il a fait 3 matchs à 30 points.
Il n'est pas blessé. C'est bien.
Faire une petite prise de sang.
Mais dis, t'as écrit une lettre.
Ouais, je pense. C'est moi qui les dénoncer.
Dénonciation.
Alors c'est vrai, comme tu dis, la saison du chouchou de Mehdi semblait à peine débuter que patatras, les Sixers se retrouvent privés de celui qui a quand même bien du mal à justifier son salaire depuis qu'il a signé dans la ville de l'amour fraternel. Paul George en moins, les ambitions des Sixers sont revues à la baisse, les gars.
Non, elles remontent justement. Ouais. T'as vu, elle n'empêche que depuis le temps qu'il joue plus, Edgecombe, ses stats, elles redeviennent à 25 points.
Ouais, puis ils ont Kelly Oubre aussi qui est sur
Kelly
le même poste.
Kelly Oubre revient, t'as, t'as toujours
Embiid qui est ressuscité aussi.
Alors ça, on va en parler. Il m'a flingué ma chronique. Ah non, mais.
On va se concentrer.
Je parle pas de toi.
Merci.
J'aurais pas osé. On continue avec les Hornets qui jouent au basket.
Eh oui.
Eh oui, 7 victoires de suite et les frelons les plus inoffensifs du monde animal commencent au moins à ressembler à des moustiques. Et comme l'Est ressemble à un champ de betteraves au mois de février, il semblerait que Charlotte ne soit plus forcément aux fraises. Et puisque... Eh ben, c'est l'inverse.
Oh non,
c'est
recherché. Oh là là, hein. Oh là. Le retardement, mais même...
Bref,
j'entendais tellement.
Voilà. Et peut-être que Moussa Diabaté pourra espérer jouer au basket au mois d'avril.
Eh oui, parce qu'il y a le play-in, objectif play-in pour les Hornets.
C'est atteignable. Hein.
Qu'est-ce qu'il joue bien. Ouais. Franchement, c'est agréable à regarder.
Ouais. Spectaculaire, il y a du dunk.
C'est ce que tout le monde dit. C'est du beau jeu à regarder.
La complicité en plus, t'as l'impression qu'ils s'aiment bien tous, ça se passe bien.
Le Melo Ball ne bouffe plus tous les ballons.
Alors c'est ça, vrai que c'est là maintenant, chouette. Avec des mecs qui marquent des paniers autour de lui, il est obligé de se calmer un peu, il a plus tous les tickets shoot.
Noople est quand même impressionnant là.
Ouais. C'est fou.
Noople
hein.
Là.
Ah oui.
Le coloc de. Le colloque de Cooper Flagg. Ouais. La chambre, je ne sais pas comment ils n'ont pas gagné Duke,
c'est vrai.
Le titre dans ce
avec ces deux joueurs-là. Ouais. D'ailleurs, leur confrontation, c'était la semaine dernière.
Ouais. Ah oui, c'était.
Les étincelles. Hein. Combien 50 points. Non, 49.
49 pour Flagg et 32 pour
Knuppel. 32, ouais.
Mais la victoire.
Ouais, mais la victoire de, pour Knuppel.
Mais d'accord.
Mais c'est vrai que. Et Moussa Diabaté, là, le petit français.
La saison.
Le grand français.
Ouais.
À lui, j'appelle ça un éboueur, moi, parce qu'il fait toutes les tâches que personne
exactement.
Ne veut. Ah, il va se frotter à tout le monde, il va au contact, il défend sur tout le monde.
Une vraie pile, hein.
Vraiment.
Est-ce que vous l'avez vu défendre sur Wembanyama sur le match
Ouais, et il défend bien.
Et là, il a vraiment tenu, hein. Alors qu'il lui rend quand même 20 cm. Donc,
Bon, après, San Antonio a fait un non-match ce jour-là, mais pourquoi pas.
Voilà. Enfin, on va faire un petit point du coup, comme promis, sur le All-Star Game. Alors, pas pour parler des parodies de matchs du dimanche, mais juste pour évoquer donc les récompensés de cette année. À l'Est, on retrouvera Donovan Mitchell.
Normal.
Norman Powell.
Normal.
Normal, Powell. Jalen Johnson.
Ouais.
Mérité. Pascal Siakam. Alors là, il y a un petit débat autour de.
Vu le classement,
tu peux être dernier, être All-Star.
Ouais. Voilà.
Donc là, petite, c'est peut-être un des spots où il y a le plus de discussions. Scotty Barnes.
Pas de discussion.
Mérité aussi, hein. C'est.
Qui voyait Toronto quatrième en début de.
Non, personne. Donc c'est bien mérité. Ouais. Jalen Duren. Ah vas-y.
Le meilleur pivot de la NBA All-Star Game, c'est normal, non, quand même.
Jalen Duren. En plus de Jalen Brunson, évidemment, Tyrese Maxey. Kate Cunningham.
Et ouais, meilleur pivot. Meilleur meneur, pardon.
Et Jaylen Brown. Et quant à Giannis, il sera remplacé par Kawhi, qui ne joue pas à l'Est, hein, on est d'accord.
Ouais. Voilà. Il y a quand même honneur à Détroit, hein, parce que là, en plus, il joue dans l'équipe qui est coachée par Bickerstaff.
Ouais.
Donc c'est Bickerstaff qui coach Cunningham et.
Pour les deux, c'est mérité. C'est franchement.
Premier.
Bravo.
Avec 9 victoires d'avance sur le quatrième.
Non. Vraiment, saison incroyable de Détroit. Alors, on continue à le dire, mais c'est vrai. Moi, j'ai regardé le match contre Denver tout à l'heure. On en parlera après.
Arrêtez,
mais...
vous allez me faire chialer.
Ouais.
C'est trop beau.
Trop d'émotion.
Moi aussi, j'ai envie de chialer en ce moment, mais c'est pas pour la même raison.
Oh, t'as réussi. Ouais, beau match là contre Atlanta. Là.
Ah, ouais, c'est clair. On passe à l'Ouest du coup. Alors, Stephen Curry.
Non, pas normal.
Non, pas normal.
Alors,
plus normal que les Browns.
Oui, mais voilà, mais on y reviendra. Mais
c'est Curry, moi je trouve que c'est pas immérité. Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Cocorico, et Nikola Jokic donc seront accompagnés par Jamal Murray. Et
c'est très bien,
vraiment super bien.
Une anomalie de réparation.
Devin Booker,
mérité. Normal.
Ant-Man, donc Anthony Edwards, il sera là. Non, Denis Avdija, et ça, c'est une
surprise. Et ça, c'est très bien, c'est un super joueur. Là.
Voilà. Kevin Durant, ouais, mérité aussi.
Logique, logique. Voilà.
LeBron James. Ah, allez. Ok, il aura fait ses 21.
C'est son 22e.
C'est
son 22e.
Okay. J'ai l'impression que le mec, il a ses clés d'entrée, tu vois.
LeBron,
vous devez dire oui, c'est un peu ça. C'est ça.
Et pour finir, Chet Holmgren.
Oui, c'est bien.
Oui.
Bah, ils sont premiers.
Ok, d'accord, ils sont premiers. Okay. Que... Alors, les absents.
Shengun.
Ah, Shengun, c'est vraiment du vol.
Là, c'est vraiment la honte. Là.
Ouais. D'accord. Brooks. Dylan Brooks.
Ah, bah oui, Dylan Brooks.
Parce qu'il aurait
Phoenix, été... ils auraient mérité d'avoir au moins un All-Star. Franchement, ils font une saison.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi.
De dingue.
Ils en ont un, Phoenix.
C'est Devin Booker, mais.
Oui, Devin Booker.
Booker, c'est un classique du genre, on va dire.
Oui,
voilà, c'est presque normal.
Tout le temps qu'il est blessé, c'est Brooks qui tient la barre.
Ouais, je suis d'accord.
Il a un niveau vraiment.
Ça, c'est vrai, ouais.
Et il paye son mauvais caractère.
Oui, aussi, certainement. Il n'est pas aimé.
Le vilain.
Ouais. Il va blesser quelqu'un au All-Star Game, t'imagines, s'il blesse quelqu'un.
Ah non, mais lui, par contre, s'il y va.
Ouais, lui, il jouerait, lui.
Il va jouer.
Ouais. C'est ça leur problème, il faut envoyer des gars qui veulent jouer. Donc,
c'est pour ça que
les Browns, il faut qu'il reste à la maison et puis faire venir Dylan Brooks.
On a Harden aussi, les gars, qui n'est pas là. Est-ce que c'était ça du vol ou...
Non.
Et Banchero.
Il fait quand même une des meilleures saisons de sa carrière, lui, en fait.
Oui, non. Et le classement des Clippers,
ses stats. Je suis allé voir ses stats. Quand même.
Par rapport à.
Franchement, il envoyait du sale pendant plusieurs séries. Ouais, non, mais même.
Ou Houston.
Houston, il a 31 points.
Houston, c'est vrai qu'il s'est dit.
Mais là, il voyait tout seul.
Bah, c'est un MVP. Hein.
Ouais. Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'il n'a pas joué comme ça, par contre, depuis plusieurs années. On est d'accord. Et Banchero, pas de vol, les gars.
Bah, vu la saison d'Orlando, en plus.
Ah, ouais, mais regarde Pascal Thiagam.
Ouais, mais même lui, il ne fait pas des super stats. Hein,
ouais, c'est vrai, il est très irrégulier, on va dire.
Il n'est pas bon.
Et Kawhi a été rattrapé, là. Ouais. Donc il participera. Donc il y aura quand même un Clippers. Alors
oui,
que...
c'est vrai.
Moi, celui à l'aise qui aurait pu, c'est Brandon Ingram.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est très très bon.
Bonne saison.
Et lui, pareil, il paye sa nonchalance quoi, sur un terrain.
Ah, c'est vrai que.
Parce que toi, ils prennent Siakam.
Ça pourrait être le mec le plus réveillé. Hein,
mais Michael Porter Jr., au net. Siakam, il est pris. Lui, Junior, il fait.
Ah, c'est pareil, les Nets, c'est pareil. Problème. Les Nets, t'as vu là, les trois derniers matchs, ils prennent 40 points à chaque match.
Ah, hein. C'est
clair. Ouf.
Bon, du coup, les gars, on passe au match de la nuit. C'est parti.
Allez.
Vas-y, envoie la purée. It's a 2-point lead for the Warriors. Heat need a 3 to win. 10 seconds left. Wade against Iguodala. Je vais être pomme de terre.
Allez, Daniel, bravo.
C'est comme ça. Bien sûr. Laisse pas les jingles.
Sors de ce corps, Daniel.
Ok. Bon, désolé, ok, je suis allé.
Ne t'excuse pas, enchaîne. Non,
bah, vraiment, il y a des
salles directes, mon gars.
Ok, alors, les résultats de la nuit. Il y avait beaucoup, beaucoup de matchs cette nuit. Et en fait, très, très peu ont sorti quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, je vous propose d'évoquer simplement pour commencer le Détroit Denver. 124 à 121 pour Détroit.
D'accord.
Et, donc, Mehdi, t'as pas le droit de parler. Voilà. Donc tais-toi.
Je coupe le micro ou pas ?
Non, vas-y. Non.
Apparemment, les Nuggets sont quand même menés tout le match. Hein.
Non, c'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse. Ouais. Non, ils ont fait un comeback sur la fin, mais franchement, le match est maîtrisé par Détroit.
Détroit est maîtrisé du début à la fin. Ils ont mené de 20 points au début du troisième quart-temps. Puis après, les rotations ont fait un peu mal et Denver a commencé à mettre dedans et ils ont fait un beau rapproché. Il y a une possession à une minute de la fin où Denver est à moins 5 et il y a un shoot à 3 points. Bah, j'étais bien soulagé quand j'ai vu que le ballon ne rentrait pas. Ça m'a fait plaisir. Hein.
Après, gros match de Duncan Robinson aussi. Hein.
Ouais.
Il a mis des sacrés paniers.
Bah, il a mis dedans.
Il se plaît bien quand même à Détroit, hein, Duncan.
C'est assez ouvert hein, quand même.
Hein. Mais c'est vrai qu'il
il shoot à une vitesse.
Ouais, c'est fou. Hein.
Quand
même,
c'est un pistolero. Ouais.
Et petite mention, les gars, parce qu'on n'en parle pas depuis le début de la saison, mais Ausar Thompson.
Ouais.
Le taf qu'il fait en défense de deux côtés du terrain, c'est quand même incroyable.
Il y a lui et Stewart.
Stewart. Oui, Stewart, on a déjà parlé.
Ouais, Stewart, c'est un frigo.
Physiquement, c'est des
quand même des sacrés spécimens. Quand tu vas dans la raquette, tu sais que ça va pas être facile. Tiens, on en reparlera tout à l'heure. Jaden Ivey qui est parti. Est-ce que c'est parce qu'ils font ils veulent donner un peu de confiance à Jenkins, leur two-way contract qui va rester finalement, visiblement.
Bah, ça ou l'arrivée d'Hurter aussi, c'est peut-être pour trouver une rotation à Robinson justement sur le shoot à 3 points.
Ouais.
Parce que c'est vrai que sorti de Robinson, on est quand même l'équipe qui sommes très maladroites à 3 points. Bon, on domine toutes les équipes dans la raquette, mais à 3 points, c'est un peu léger. Et l'arrivée d'Hurter peut faire du bien.
En tout cas, Détroit continue de d'asseoir sa domination sur l'Est. Ça souffre pas de contestation. Kate Cunningham continue d'impressionner, mais qu'est-ce qu'il est physique, ce mec. Qu'est-ce qu'il est physique. Ouais. Quand il rentre dans la raquette, mais le premier coup d'épaule qu'il met, là, me fait penser à Bronson, mais en plus grand, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il est grand en plus.
C'est le mec 2m02. Ces gars-là, ils font 2m, quoi. T'as l'impression que sur le terrain, l'échelle, ils sont petits, quoi. Mais 2m.
Ah non, mais c'est fou, hein. Franchement,
et puis c'est un rare spécifique. Meneur qui fait deux pas et qui arrive au panier à partir de la ligne à 3 points.
Sacré joueur.
Ouais, c'est bien.
Ok. Sinon, il y avait un Portland de Phoenix aussi qui était plutôt sympa. Ouais. 130 à 125 pour Phoenix qui gagne. Dylan Brooks n'était pas là. Hein. Si,
si. Si,
si, si, était
là. Si, si, il était là.
C'était Booker, pardon, qui n'était pas là. Donc,
Ah, je te dis, là, Sharp, là, le Tomar qu'il met dans la nuit. Là. Ouais. Ah, faut le voir. Hein. Si vous avez vu, allez voir les highlights. Là. Mais il monte à une vitesse. Je comprends pas que ce gars-là fasse pas le concours de dunk.
Ouais, il l'a fait une année.
Ouais, mais il avait pas tellement fait haut, tellement haut.
Ouais, mais c'est un dunker de match en fait. C'est vrai, ces mecs-là sont des dunkers, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en dessous, tu vois, qui défend pour aller leur claquer des, ça doit les motiver, je pense.
Et les Suns gagnent grâce à un super jeu collectif, à vraiment des artilleurs, ouais. Et ils ont des joueurs quand même qui ont un très très fort caractère. Sans Brooks, voilà, il y a Allen, il y a Gillespie et tout. Ouais. Des mecs, faut pas venir, il faut pas trop venir dans leur pompe, hein, parce qu'il y a du répondant.
C'est du méchant, hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on gagne. On parle pas du coup de Miami qui a réussi à perdre contre Atlanta pour les 20 ans du titre de 2020.
Ouais. Ah oui, il y avait tout le monde.
Il y avait tout le monde
dans le stade.
Ouais, une grande fête, on perd comme des navets contre Atlanta.
C'est compliqué.
Ah, franchement,
Miami, c'est compliqué.
Moi, j'arrive au bout de ma patience, les gars, et pourtant, ça fait 35 ans que je les supporte. Hein. Ouais. Donc là, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Ok.
Jalen Johnson en triple-double.
Ouais, qui a mis un beau dunk aussi sur leur tronche.
Il a bien fêté sa sélection aussi, All-Star. Ouais.
Bah, très mérité aussi. Hein. Bah, c'est vrai que maintenant, Atlanta, c'est très. Mais enfin, c'est deux équipes du ventre mou, hein, comme d'hab.
Oui, ils ont le même bilan, t'as vu.
Ouais, inversé. Ouais. 27-25, 27. Ok, ouais, super. Ouais. Avec Chicago. Ouais, on va se retrouver. Ouais. Ouais.
Qui va être le quatrième?
Oula. Au suspense. Allez, c'est parti. On va passer à notre rubrique suivante, le basket et WAM.
Jojo, voici donc quelques rires.
Voilà Jojo, il y a un mois de cela, j'ai commencé cette introduction, en fait, cette introduction qui devait justement lancer notre gros dossier sur les pivots. Nous allons donc faire comme si nous étions en janvier, parce qu'on ne va pas se mentir, ce petit salopard de Jojo est en train de me faire bouffer mon papier. Un peu comme Tyrese Haliburton avec Bruno l'année dernière, ou les Clippers avec mes 17 saisons. Voilà, on prépare des trucs.
Ils sont pas arrivés les Clippers.
Oui, ils sont pas arrivés, mais bon. Cela faisait plusieurs mois à l'époque que j'avais cette idée en tête de parler de lui plus en détail. Et parce que la légende noire continuait alors de s'écrire, je repoussais à chaque fois l'échéance. Mais comme notre émission devait être particulièrement consacrée aux pivots, à ceux qui sont considérés comme faisant partie de la crème de la crème, je m'étais décidé à aborder le cas épineux, théâtral, déconcertant, agaçant, pathétique, touchant, mais surtout dramatique, de celui qui déclarait il y a quelques années « Trust the process », Joel Embiid. Et il en était où le process en ce début d'année 2026, au 5 janvier à l'époque ? Jojo va désormais approcher les 32 ans, il devrait être dans son prime et régner, si ce n'est sur la Ligue, un ogre serbe sans charge, hein, à minima, sur la conférence Est. Il n'en était rien. À quelques semaines de son anniversaire, Embiid ne comptait quasiment plus dans le paysage de la NBA, ça faisait mal de le dire. Et même si l'histoire commençait de toute façon mal, malgré tout le talent et le potentiel entrevu en universitaire, deux saisons blanches quand même, faut rappeler, au sortir de sa draft, pleine d'espoir pour les Sixers de Philadelphie, en raison de pieds fragiles, demandé à Greg Oden, hein, c'est pas bon signe. Sur l'échantillon de matchs joués à ses vrais débuts dans la Grande Ligue, et en dépit d'un temps de jeu limité, tout le monde est unanime. On n'a pas vu un pivot dominer de cette façon la peinture depuis O'Neal, excusez du peu. Et de 2017 à 2023, on va découvrir avec un peu de régularité sur le terrain toute la panoplie offensive, et un temps défensive, de l'américano-franco-camerounais le plus célèbre de l'histoire. Eh oui. Les duels avec Jokic à partir de 2020 constituent l'une des plus alléchantes affiches proposées par la NBA. D'ailleurs, l'un tire l'autre vers le haut dans ses affrontements où pas moins de 250 kilos, pas fait que des muscles dans le cas du Serbe, entrent en collision. Embiid MVP en 2023, certains, dont moi, diront qu'il y avait débat avec le Shrek slave. Big Joe envoie du lourd, finit deux fois meilleur marqueur, est abonné au All-Star Game et aux distinctions de fin de saison. Mais pour son équipe, ça coince, Ça coince même régulièrement entre les crashs au lancer franc de son acolyte prometteur, mais lui aussi désormais estampillé gâchis, Ben Simmons, devenu depuis un redoutable pêcheur à la truite. Les fins de série de où Jojo ne tient plus que sur une jambe, les matchs décisifs vécus la tête basse avec un langage corporel digne de celui d'un fonctionnaire des impôts contraint de travailler un 1er janvier. Et bien évidemment, les déclarations lunaires. Embiid est frustré, Embiid devient malheureux, Embiid déprime. Et on le comprend assez remarqué. Hein. J'ai toujours été, moi, personnellement, atterré par le manque d'empathie que le public pouvait ressentir devant un géant, certes multimillionnaire, mais au pied et désormais au mental fragile. D'argile même. Alors soyons clairs, Embiid a agacé à juste titre. Hein. Ses tergiversations pour être naturalisé français et intégrer l'équipe de France sous la pression quand même d'un certain Emmanuel M. Avant de finalement choisir la nationalité la plus apte à t'offrir un titre collectif via un joli passeport américain. Il y a cette arrogance qu'on pardonne à des Jordan, des Kobe ou des Shaq, mais qu'on ne supporte pas chez un mec qui visiblement n'a pas tout à fait compris que le corps est un outil de travail à entretenir et à ménager. Surtout quand on a cette disposition aussi flagrante à la blessure. Dans ce sens, Embiid rejoint Anthony Davis, mais Davis lui aura gagné un titre. On rajoute un peu de flopping, de la provoque, et on obtient le profil parfait du joueur qu'on adore détester. Ce qui m'interpelle moi en tant que fan de basket et qu'être humain, c'est cette propension que la foule développe face à ceux qu'elle adule un temps, à savoir passer de l'admiration à la mauvaise foi, de la vénération à l'hostilité. Embiid n'est pas un ange, mais à sa décharge, le gamin de Yaoundé qui n'a commencé le basket qu'à 15 ans, faut le savoir, a tout connu. Un milieu modeste, l'espoir, la gloire, l'argent, le deuil, les blessures, le doute, la dépression. Et ce dernier mot, il faut avoir conscience du poids qu'il peut prendre dans une vie. J'ai malheureusement depuis longtemps ce pressentiment, je ne lui souhaite surtout pas, soyons clairs, que sa carrière, et je l'espère encore moins sa vie, finirait tragiquement. Parce que qui peut réellement survivre à ce scénario sans y laisser quelques plumes, son estime de soi, sa santé? Alors moi, je voulais que Jojo nous fasse rêver encore une fois, pourquoi pas en play-off, et que Jacques Brel ait raison, Jojo, tu n'es pas mort. Et c'est la magie de la NBA. Un mois plus tard, Embiid ressemble à Icky du Phénix dans les Chevaliers du Zodiac. Il a niqué ma chronique. Il affiche à nouveau des stats d'All-Star, enchaîne quelques matchs. Les Sixers, sont plutôt bons et il serait normalement légitime de s'autoriser à rêver. Sauf que je ne vais pas me renier et comme je l'ai dit, je ne pense pas hélas que l'histoire de Joel Embiid soit compatible avec un happy end. Si vous regardez bien d'ailleurs, Big Joe joue moins bien, bouge moins bien, il évite les contacts, ses genoux ont tendance à gonfler comme les chevilles et le melon de James Harden. Bah, j'espère encore avoir tort. Donc, Jojo, si tu m'entends, fais-moi mentir, s'il te plaît. Et normalement, c'est là que Jacques Brel finit.
Six pieds sous terre, Jojo. T'as la beau, c'est le truc.
Tu n'es pas mort.
Allez.
C'est beau.
C'est beau. Sous
terre, je crois que je vais chialer.
Moi aussi.
Je t'aime encore. Voilà, vous écoutez Money Time sur Radio Graphique 94.9, la meilleure émission artisanale sur le basket, réalisée maison avec des produits frais, mais par des mains sales. Et en ces temps de grippe et de gastro, pensez à vous laver les mains.
On fait pas faire là-dessus. Tu fais un truc super et tout.
Et bah justement, un truc super, tu vas nous le mettre, puisque c'est toi qui t'occupes de la musique.
Oui, effectivement, on va passer un morceau de musique super aussi. Merci pour le clin d'œil à Jacques Brel, merci pour le clin d'œil aussi à Ardenne, c'était pas mal, j'aime bien. On va écouter un artiste local, j'ai envie de vous dire, enfin anciennement local. C'est un rappeur qui est passé d'ailleurs dans les studios de Radio Graphite, hein, dans lequel on se trouve. Il s'agit de son nouveau nom, Shadow Writer, mais alias Lazare. Rappeur du Beauvaisis initialement, qui a sorti deux EP coup sur coup. Et on va écouter un extrait du dernier EP qui s'appelle Solstice. Le morceau, c'est Désert Matériel. Et on se retrouve juste après dans Money Time sur Radio Graphite 94.9 FM. Petit clin d'œil pour toi, Léo. Allez.
Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Guerre à meurtre. Chicken.
A écrit tout le monde veut le paradis. Pourtant même d'ici j'ai pas l'impression qu'on soit libre. Faut bien choisir ses armes, le bon calibre. J'avance avec un canif but I need un désert tigle, tigle. La loyauté c'est sacré, c'est non négociable. Tous les 20 ans on parle d'une nouvelle génération sacrifiée. On la maudit pour ce qu'elle n'a pas réussi à faire. S'éloigner de tout nous rapproche de l'essentiel. Alors pourquoi je tombe en cascade comme un glacier. L'impression d'être en marche arrière de la résine dans la rétine. Pour tenter d'éteindre un brasier impossible d'y toucher. De la lave chaude, du sang qui coule dans mes veines. Je me suis tellement frotté la tête qu'il me reste juste un crâne chauve. Enfin je peux rire de moi-même, mais trop souvent j'ai voulu jouer les kleptomanes. J'ai forcé les cœurs une grosse peine. Ça fait mal bien plus qu'une belle plaie au thorax. Je sais que je me répète dans mes textes, je me fige tous les soirs. Je fixe l'étoile polaire pour lui rendre encore un dernier hommage. Je sens qu'il est aux côtés des plus grands mages. À l'intérieur ça crie très fort, oh my lord. Ramène-moi juste une minute auprès de lui dire combien je l'aime. Juste le temps d'un film, Back to the Future avec Christopher Lloyd. Tant pis ça déborde 20 000 lieues sous les mers. Pour toi c'est une démo, pour moi je sors mes démons. J'essaie de me donner de nouveaux espaces de découverte. Retrouver les qualités du capitaine Nemo de Jules Verne. Donner ce qu'il y a de meilleur à l'humanité. Chaque jour je fais l'inverse, c'est dingue, je veux que ça brille mais c'est l'averse. Ouais poteau, c'est bien l'hasard, faut pas critiquer. Je pourrais te surprendre, revenir plus fort comme Hugo et critiquer. Je fais tout ça pour décortiquer les mots du monde, voire décorgiser. C'est pas ça qui nous rendra humbles face aux atrocités. Alors beaucoup fument la verdure ou s'enfoncent dans la neige. Et d'autres bien pires prennent la drogue dure. Écoute, quand les familles sont larguées, les enfants sont perdus. Allez, y'a du travail à faire, on va pas se mentir. Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Sinon ça va mal finir, on va pas le sentir venir. Toute la vie est spirituelle et pour les plus sceptiques, on ne pourra jamais rien faire. Je les observe dans leur désert matériel. Allez, y'a du travail à faire, on va pas se mentir. Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Sinon ça va mal finir, on va pas le sentir venir. Toute la vie est spirituelle et pour les plus sceptiques, on ne pourra jamais rien faire. Je les observe dans leur désert matériel. Matériel, matériel, matériel. Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Guerre à faire, 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 faire. Même en temps de guerre, guerre à faire, faire, faire. Même en temps de guerre, faut rester brave et fier. Guerre à mer.
Bah c'est du local, c'est bien.
Bon rap local, franchement ouais. J'aime bien, ces deux projets sont bons, j'aime surtout le dernier qui est bien, bien enfin, plus travaillé que le premier, c'est forcément, c'est l'idée de quand on fait du sport, de la musique, c'est le principe. On peut retrouver ça sur Spotify, donc Shadowwriter, Solstice, et c'est Back to the Basic pour le premier EP. De toute façon, vous aurez les infos sur le mur du Château Blanc sur Facebook.
Allez-y.
Ah oui, voilà, Château Blanc, la meilleure émission de rap de tous les temps, vous, ah, même de l'univers, comme j'aime bien dire, sur Radio Campus Amiens. Mais bref, là, on est sur Money Time. Désolé, messieurs, pour le moment publicitaire.
Pas de soucis.
Clin d'œil à Joanne qui nous écoute d'ailleurs, si tu nous écoutes, clin d'œil à toi. Merci d'écouter Graphite et surtout Money Time, la meilleure émission de basket. Et maintenant, je vous laisse la parole.
Merci Beufa, merci pour ta petite intro musicale et ta petite conclusion. On va lancer notre dossier, c'est parti ?
Mais oui monsieur.
Allez. J'ai pas dit on voit la purée.
Oui, tu l'as dit.
Voilà, c'est l'as dit.
Allez, je l'ai dit.
Ouais. Allez Daniel, on y va. Ouais.
Le pire, c'est qu'il y a des beaux jingles.
Allez, écoute comme c'est beau.
Bah oui.
Allez, temps d'ouvrir notre dossier spécial consacré au pivot. Ne nous voilons pas la face, les grands font rêver. C'est un mec qui culmine à 1m70 qui vous dit ça. Quand j'ai découvert le basket, le joueur que je préférais était David Robinson, 2m16, 113 kg. Tant vous dire que j'avais quand même du mal à nous trouver un point commun, mis à part le fait qu'on aille tous les deux à la messe le dimanche. Les big men en NBA ont toujours fait rêver. Poids, rebond, contre, leur présence dissuade, impacte, déstabilise. Et quand en plus on leur rajoute puissance, technique, vision du jeu et shoot longue distance, le spécimen devient rapidement un objet de fantasme pour le grand public. Aujourd'hui, avec notre équipe de big men à nous, on vous propose d'évoquer en premier lieu les critères qui entrent en considération quand on entreprend de déterminer qui sont les meilleurs, voire le meilleur, le GOAT des centers en NBA de 1990 à aujourd'hui, parce qu'on parle quand même mieux de ce qu'on connaît et qu'on a vu de ses propres yeux.
Exact.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne parlera pas de Will Chamberlain.
Du coup, Bill Russell, quoi.
Ni de Bill Russell, bien sûr. Ouais. Ni de Karim Abdul-Jabbar. Ah, voilà. Du coup, j'ai demandé à la bande d'affreux ici présente de me classer les 10 meilleurs pivots dans l'ordre en gardant en tête les critères suivants.
Je suis pas d'accord.
Objection, votre honneur.
Même pas donner les critères.
Débat voleur aussi. Ouais. C'est ça le problème.
Quel chien.
Ah, je te jure.
Alors, statistiques individuelles. Attention, l'adresse au tir est un paramètre trompeur, par exemple. Palmarès individuel et collectif. Impact offensif, défensif, général. Concurrence dans la période où le joueur évoluait, parce que ça, c'est un point aussi important. Et on a établi dès lors le barème suivant. 5 points pour le premier. De nos, voilà, de nos pivots chacun. 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 points sur les places 4 et 5, et 1 point de 6 à 10. Messieurs, du coup, on commence.
Résultat. Alors, c'est quoi le résultat?
Un truc à nous dire, là. Tu veux commencer là?
Mais il n'y a même pas de débat en fait, je ne sais même pas pourquoi on parle.
C'est quoi le résultat des votes au final?
Alors, on va commencer.
Ça y est, ça va m'énerver.
On va
Je suis encore les classements avec toi.
Ah, j'ai le classement.
Oh, le mec, il a bossé.
Bah, j'ai bossé.
Ah, il a bossé. Mais.
Alors, on va rendre hommage à quelques mecs des années 90 à aujourd'hui qui auraient pu prétendre à, mais qui n'ont pas reçu suffisamment de votes pour entrer dans les 10 premiers. Vraiment, à la marge, on a Marc Gasol, ouais, et Rudy Gobert.
Non, pour Gobert, pour moi, il est dans les 10 déjà.
Mais... Ah, mais bon, voilà, on était 6, 5 à voter. Hein.
Tu sais d'accord. Que le côté offensif, ça compte aussi. Hein.
Oui, voilà, exactement. Alors, on va me dire que le méchant. Oui, bon, d'accord. Ok. Ah, Marc Gasol n'y est pas, Gobert n'y est pas, Arvid Sabonis n'y est pas.
On parle pas des two-way players.
Sabonis n'y est pas.
Mais il n'y a pas joué assez longtemps, Sabonis en NBA.
On parle pas des two-way players, on parle des défenseurs, des pivots, des,
ah,
des bons vieux.
Sabonis, c'était pas un grand défenseur.
Des bonnes vieilles tours à l'ancienne.
Des bonnes vieilles tours.
Pareil.
Bonnes tours pérées comme un vient.
Sabonis, c'est quand même le premier pivot.
Il avait des mains quand même.
Des mains en or.
Qui avait un style de meneur de jeu. Il crée le jeu, Sabonis. Ouais.
C'était Jokic avant
l'heure. C'était le prototype, c'était la version bêta de Jokic. Quoi.
Après, c'est vrai qu'il est moins connu que les 10, quoi, tu vas dire.
C'est ça, voilà.
Je l'admets bien, bien volontiers. Marqué,
bon, pareil pour Yao Ming aussi.
T'as cité,
fait une saison assez courte, on l'a cité.
Tyson Chandler.
Il n'a jamais été question de le foutre dans les 10.
Mention spéciale, Tyson Chandler.
Il veut sa mention spéciale, Bruno.
Il veut sa
mention. Joakim Noah.
Non.
Non.
Eh oui, c'est vrai, Joakim Noah.
C'est bon, Bruno, t'as fini tes blagues. On peut
parler sérieusement. On a que 20 minutes, Bruno. Écoute.
Bon, on commence. Allez,
recentre-toi.
C'est parti. On commence avec la 10e place et avec 3 points, ce qui n'est pas énorme, mais il faut dire qu'il y en a certains qui récupèrent plus de points que d'autres. Hein, vous allez voir. Joel Embiid, justement, qui est à la 10e place. Et, écoutez, c'est mathématique. Donc voilà. Il y en a plusieurs qui l'ont mis dans les 10.
C'est pas moi, c'est les stats.
C'est pas moi, c'est mathématique.
Joel Embiid, on va pas en parler parce qu'on vient de faire un truc spécial sur lui. Par contre, à la 9e place, à 4 points, avec un point de plus, on trouve Ben Wallace.
Big Ben. Je l'ai mis plus haut, moi. Il est 6e, Ben Wallace.
Ah oui. On n'a pas tous mis au même endroit.
Je l'ai mis 10, mais.
Je l'ai mis vers le bas.
Mais en fait, voilà, si tu prends aussi l'offensif, là, il perd énormément de points. C'est un défenseur monstrueux, c'est le seul qui a réussi à arrêter le Shaq et ainsi de suite. Mais...
Combien de fois meilleur défenseur? 3 fois ou 4 fois?
4.
4 fois, 4 fois meilleur défenseur de la NBA. Dans ça, on peut le rapprocher un peu de Mutombo, c'est-à-dire des pivots très défensifs, très très bons, qui changent le jeu défensivement.
Ouais, mais lui, il avait vraiment pas de shoot en fait.
Ouais, ben,
lui,
ouais,
c'était. En fait, tu lui donnais pas le ballon en attaque.
Il est champion déjà, champion NBA.
Oui, bien sûr. Oui.
4 fois All-Star, 3 fois défenseur. 4 fois défenseur de l'année. Ouais. Non, mais
c'est mérité.
C'est un joueur non drafté en plus.
Ouais. Non, mais vraiment, c'est quand même. Il a fait une sacrée carrière. En tout cas, respect pour lui. Ensuite, on trouve à la 8e place Dwight Howard.
Normal.
Avec 5 points. Donc, un joueur hyper dominant physiquement, une espèce de monstre bodybuildé. Pas loin de me rappeler un peu Buffett torse nu.
Ah, non. Enfin, oui,
de loin, de loin.
Oui, pour le côté torse nu, non pour la carrière, tu vois. Il a trop une carrière, il a eu un pic et après il a disparu.
Et là, on commence à parler de pivots qui sont dominants des deux côtés du terrain.
Il arrive à gratter un titre en plus dans la bulle.
C'est vrai.
Toujours le titre.
Ah, il est en fin de carrière.
Avec un petit astérix, quoi.
Avec les Lakers, effectivement.
Non, mais Orlando, ils ont vécu des années juste sur lui.
Et ils font une finale NBA.
Une fois qu'il est parti d'Orlando, c'est passé quoi concrètement?
Oui, après, c'est pas
un problème de voir. Il a toujours été dominant par sa fin de carrière, mais il a toujours été ultra dominant.
Ouais. Et trois fois défenseur de l'année aussi.
Trois fois défenseur de l'année, des grosses stats au rebond. Alors après, c'est vrai qu'offensivement, je crois que sa meilleure saison, ça va être 22 points de moyenne. Ça n'a jamais atteint des sommets des gars qui vont arriver après, en fait. Peut-être que la limite, elle est un petit peu là aussi.
Mais c'est vrai que moi, l'aspect offensif, je l'ai moins pris en compte. Pour moi, les pivots, toi, le goat des pivots, c'est plus des.
Attends, on va reparler de qui t'as mis en numéro 1.
T'énerve pas.
Hello, tu parles de défense et on va voir qui est-ce qu'il a mis.
Il est pas content.
Je sens quand on arrive dans les trois dernières places. Tenez-le, tenez-le.
De toute façon, vous allez m'énerver. C'est sûr que vous allez m'énerver.
Bon, du coup, allez, on passe à la place de numéro 7. Et là, les gars, messieurs, un peu de concentration. On commence à rentrer dans des mecs qui sont difficilement discutables. En tout cas, dans les 10 premiers. Là, on arrive avec Alonso Mourning.
Ouais, non. Ah,
d'accord. Ouais. Oh, il m'est tombé dessus, le père Mézi, pour ça, là.
Ah, moi, pour moi, c'est un très, très grand pivot. En plus, à une époque...
Il est... Non, mais attention.
Prends le contexte.
Super gros joueur, il n'y a pas de problème. Super joueur, effectivement, il a marqué l'histoire à tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, je trouve qu'il y a des mecs qui sont encore au-dessus de lui. Tu vois.
Bah, ils sont au-dessus,
ils sont, d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Ils y sont. D'ailleurs, titré quand même.
Ouais, 2006.
Énorme contreur pour faire le topo de Mourning.
Il y a 20 ans.
Hein. Voilà, exactement. Donc, titré en 2006. Après un double comeback, il faudra faire sa story un jour, mais malade des reins, maladie des reins. Il fait deux comebacks... très gravement atteint, en fait. Il revient en doublure du Shaq en 2006. Et là,
il a porté le hit pendant combien d'années?
Oh, pendant une décennie.
Mais c'est toujours pareil. Ouais. C'est des mecs, moi, que j'adore, parce que les mecs, ils restent dans leur franchise.
Ouais,
ils
sont délicats. La culture de franchise.
Ils vont pas courir après la bague comme certains. Enfin, moi, j'adore ces mecs-là.
Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, mis à part Mutombo, qu'on va trouver juste au-dessus. Mutombo, mais on a déjà parlé dans une émission, vous pouvez réécouter. Tous ces mecs-là, bon, la question de la fidélité par rapport au maillot, elle est prégnante. Et ces mecs-là, à part pour un peut-être,
oui, on voit qu'ils en parlent déjà.
Voilà, on voit bien qu'ils vont cliquer un petit peu tout le monde. Mais c'est des mecs.
T'es là en 2006 aussi, non?
Mourning représente le 8, mais qu'il est commencé au Hornet. Mutombo, pareil, qui a quand même connu plusieurs franchises. Denver pour commencer.
Non, c'est les Hawks et Phila, en fait, Mutombo.
Denver,
c'est bien. Philadelphie, quand même, il est marqué.
Ils vont en finale NBA. Et
ils avaient, en fait, Mutombo, pour la petite anecdote, c'est All-Star Game, je sais pas si vous vous souvenez. Il joue avec Iverson dans la même. Il est titulaire avec Iverson. Ils font un carnage.
Ah oui, ils font le bordel à deux, c'est ça.
Et là le manager des Sixers, il dit: oh putain, il y a un truc à faire.
Ouais, du coup, ils bien tous les deux sur un terrain.
Voilà, super. C'est
sûr, quand tu joues avec Iverson aussi, c'est quand même plus facile le basket.
Oui, c'est sûr. Et avec Mutombo aussi, énorme contreur, on en a déjà parlé. On passe là où. Alors là, on rentre vraiment dans les légendes. Au
top 5.
Là, on n'est pas dans le top 5, on est à la
6,
porte du top
là,
5.
Là, c'est 6 là.
Ouais, on est au 6ème. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on est dans le top 5.
Ah, voilà. Me dis celui-là. Ah, ouais.
Bah, je sais compter en fait.
Ouais. Eh ben, moi non.
C'est pour ça qu'il a le meilleur classement.
Avec 8 points, à égalité. Patrick Ewing et David Robinson.
Oh, deux légendes.
Ouais, deux légendes, deux super joueurs. Ouais. Alors là. Les
Patrick
gars,
Ewing.
On n'a pas des critères. Il y a des titres. Ewing, on n'a pas.
Non.
Ben non.
C'est vrai. C'est le. Si on regarde, Ewing, Mutombo, pas titre, Mourning, on a.
Il a un titre, Patrick Ewing. Plus grande légende des Knicks.
Les Knicks, certainement.
Et puis champion.
C'est pour ça que je mets.
Champion NCAA avec Georgetown.
C'est vrai.
Mais c'est.
Il a pas titre, mais voilà, le mec, c'était le. Bon, c'est le patron, quoi.
The Beast, comme on l'a comme
en plus, voilà, tu vois, c'est.
Et deux médailles d'or. Médailles d'or au JO.
Oui, prend des JO, oui. Bah, ça, après, quand t'as le mercat, t'as des JO. Enfin, t'as des médailles.
Non, mais Ewing, il a fait toute sa carrière au Knicks.
C'est ça.
C'est un mec qui a jamais abandonné. Il a jamais couru après une bague. Il est resté fidèle à sa franchise.
Quitte à souffrir par moments.
Exactement.
Moyenne, enfin, tu vois.
Et lui, il avait vraiment pas peur d'y aller. Hein.
Ah non, c'est un soldat.
Alors, clairement, de toute façon, Ewing, on est d'accord, c'est une légende. On a Robinson aussi, David Robinson.
L'amiral
qui était une machine à stats incroyable, drafté en 89.
Et commencé à jouer qu'en
80. Non, arrivé en 87. Drafté en 87 et arrivé, ouais, t'as
raison. En 89, parce qu'il part faire son service militaire dans la marine.
Et rembourse.
Et c'est pour ça qu'il
s'est appelé l'amiral. Il était boursier.
Il était boursier.
Il est remboursé aux Marines.
Donc il devait passer 2 ans de.
C'est pour ça qu'il se fait appeler l'amiral.
Ça vient là, ça
se
D'accord.
Et le mec, quand il arrive, il défonce la NBA. C'est-à-dire que.
Ça, je me souviens de ça, par contre.
Son équipe, je crois qu'elle prend 40 wins dans la saison, je crois.
Ouais.
C'est le plus gros upgrade qu'on ait vu en NBA.
Les deux fois champion et les MVP en 95. Enfin,
c'est l'un des rares joueurs qui a fait un quadruple-double.
Ouais, exactement. Ouais. Il y en a un qui arrive juste après. Alors justement, petite parenthèse, messieurs. Parce que là, les trois noms qu'on aborde, Ewing, Robinson et le suivant, on est quand même sur trois mecs qui se sont tirés la bourre pendant des années. Parce qu'on parle de contexte. Effectivement, moi j'ai du respect pour Dwight Howard, etc. Mais Dwight Howard, est-ce que vous vous souvenez?
Il n'y avait pas de pire.
Était en face de lui?
Des rivalités.
Allez-y, les gars.
Non.
T'avais Pau Gasol,
t'as Gasol ou
pas? Pau Gasol, c'est un ailier fort.
Marc Gasol.
Ouais, mais il jouait 5 quand même.
Ouais, Marc Gasol, il jouait 5 en plus.
Bon. Faut Gasol, il jouait 5.
C'était Bynum, le pivot des.
Non mais, arrête.
Non mais c'est pour ça. Oh. Tu vois, pourquoi je dis ça
oh, sécher sur place.
Non mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Ewing, Robinson et Olajuwon, qui est notre troisième, je sais, mais il va faire un arrêt cardiaque direct. Ces trois mecs ont joué face à face pendant des années, avec le suivant aussi d'ailleurs. Et là, on peut parler vraiment de concurrence ultime. Est-ce qu'il y a eu trois pivots aussi forts en même temps?
Non. Pas sûr. Alors, c'est pareil comme Ben Wallace,
ouais, mais
tout le monde à cette époque-là.
Enfin, c'est quoi le critère, quoi? Bah, moi, le critère, toi, ça a été assez. Moi, je suis assez, c'est cartésien, quoi. Tu sais, j'ai regardé les titres, j'ai regardé les défenseurs de l'année, j'ai filé des points aux joueurs.
Ouais, moi aussi.
Et en fait, Ewing, bah, malheureusement, le pauvre, oui. Il a pas de points, quoi. Ah,
oui. Moi, j'ai pris aussi.
Il est jamais MVP, il est jamais.
Moi, j'ai pris le rayonnement du joueur. Et puis aussi, après, c'est, oui, bah, c'est perso, dans le sens où l'époque où moi, j'étais plus. Où j'ai plus suivi la NBA. C'est-à-dire que malheureusement, au moment de Big Ben Wallace aussi, c'est pareil. Pour moi, c'est pas la plus belle période de la NBA.
Non, mais je suis
mes yeux. Alors, après.
Ben Wallace, après, c'est particulier aussi parce qu'on va évoquer forcément Shaquille O'Neal. Vous avez compris qu'il est arrivé juste derrière.
À un moment donné, il va arriver.
Shaquille O'Neal a affronté quand même les trois pivots légendaires qu'on a vus et aussi Ben Wallace. Donc en fait, il est à cheval sur deux, mais ça s'est dégagé un petit peu. C'est vrai, la domination d'O'Neal.
Les trois premiers qu'il a rencontrés, il a pris que des branlés. Hein.
Ça, c'est vrai, malheureusement. Il a raison. Ouais,
attends,
il a préparé un truc.
Il a préparé un truc.
Du coup, alors on va laisser pas. Parce que j'imagine que c'est sur Olajuwon.
Bah oui.
Bon, bah alors, vas-y, parle-nous.
Le GOAT. Mais il n'y a même pas de débat.
Allez, vas-y.
Ok, messieurs.
Crache ton fiel.
Dans l'histoire de la NBA, le poste de pivot a vu passer des légendes absolues. Pourtant, lorsqu'on analyse l'ensemble des critères, talent offensif, impact défensif, polyvalence, réussite en play-off et contexte de compétition, Hakeem the Dream Olajuwon se distingue comme le pivot le plus complet, le plus dominant de tous les temps. Une domination offensive unique. Il est unanimement reconnu pour avoir le meilleur jeu de pied jamais vu chez un pivot. Son célèbre Dream Check est devenu une référence technique encore enseignée aujourd'hui. Capable de scorer dos au panier, en face-up ou en fade-away. Excellente coordination, feinte multiple, lecture du défenseur. Plus de 26 000 points en carrière sans dépendre uniquement de la puissance physique. Et il battait ses adversaires par l'intelligence, la technique et la finesse. Le pivot défensif le plus complet de l'histoire. Là où Olajuwon devient véritablement unique, c'est en défense. Meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Top 10 historique aux interceptions, un exploit rarissime pour un pivot. Capable de défendre sur les pick and roll, de switcher et d'anticiper les lignes de passe. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la même saison MVP, défenseur de l'année et finale MVP des finales. Cela prouve un impact total des deux côtés du terrain sans équivalent chez les autres pivots. Des titres gagnés dans le contexte le plus difficile, deux titres NBA en 1994 et en 1995. En 1994, champion sans autre All-Star dans son équipe. En 1995, champion en éliminant successivement Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson et Shaquille O'Neal à qui ils mettent 4-0.
Il les a démontés. Il a démonté Robinson, comme rarement j'ai vu Robinson se faire démonter, et O'Neal, il a couru après pendant toutes les finales.
Ouais. Une longévité et une constance exemplaires, 12 sélections All-Star Game, 12 sélections All-NBA, 9 sélections All-Team défensive. Sa carrière est marquée par une excellente durable sans
déclin
brutal. Olajuwon est le seul pivot à exceller simultanément dans tous les domaines.
Ah là,
attaque, défense, technique, leadership et réussite en play-off. J'irai au bout. Olajuwon n'est pas seulement l'un des plus grands.
Vous ne me ferez pas taire.
Il en est la version la plus complète et la plus aboutie.
Je vous demande de vous arrêter.
De finesse offensive, d'intelligence défensive, de leadership et de réussite dans des contextes extrêmement compétitifs fait de lui le meilleur pivot de tous les temps. Le Dream n'a pas seulement dominé la NBA, il a redéfini ce qu'un pivot pouvait être. Il n'y a pas de débat, messieurs.
Ok, d'accord, bon, bravo à toi parce que tu
es. Merci, c'est quand même ta bien bossé.
Et surtout, Olajuwon, il n'a pas eu besoin que la NBA change les règles pour réussir à faire des lancers francs de 1. Hein. On ne peut pas comparer ces deux joueurs.
On t'entend plus, tu cries dans le micro.
On a perdu.
Je pense que les auditeurs et auditrices sont d'accord.
Alors, soyons clairs, les gars.
Ils n'ont pas le choix.
Soyons clairs parce qu'en fait, finalement, là, on arrive sur les trois pivots. Donc, Olajuwon est à égalité de points avec O'Neal dans le classement. Et derrière, on verra qui est le numéro 1 parce qu'il ne coûte pas forcément de source pour tout le monde. Mais ils sont à égalité de points. Ce qui les a différenciés, c'est j'ai regardé un petit peu qui les avait placés en première place. Donc, pour Mehdi, évidemment, Olajuwon est premier. Il est ensuite deuxième de tous les temps pour moi, pour Bruno et pour Baptiste. Et c'est Buffa, en fait, qui le tue.
Voilà. Voilà, ça s'est dit, comme ça tu pourras aller après le problème avec lui.
Ah, parce que même les non-basketteurs, ils peuvent jouer.
Oh, oh là là, c'est regrettable. On va couper votre micro, monsieur, pendant 10 minutes.
C'est toi. Comme au hockey, là, tu fous dehors.
Ouais,
ça,
tu voilà. fous dehors.
Vous allez en prison, monsieur.
O'Neill, lui, il arrive premier chez deux personnes, Bruno et Baptiste. D'accord. Chez Buffa, il est numéro 2. Chez Mehdi, il est bien en dessous.
Tu veux dire, Hakim, tu
l'as mis 4. Je l'ai mis 4.
Je l'ai mis 4, mais oui, bon, il est en dessous. Voilà. Et chez moi, il est 3ème. Voilà.
C'est ça dont tu parles, sinon j'ai pas.
On parle d'O'Neill. On parle O'Neill. D'accord. D'accord. Donc en fait, O'Neill, il faut quand même lui rendre hommage aussi. O'Neill, il y a une époque où il écrase la NBA. Ah,
en fait, dominant. Moi, si je le mets en premier, c'est qu'il a traversé toutes les générations. En fait.
Oui. C'est vrai qu'il est.
Dans ce sens-là, il a traversé 2 voire 3 générations de basket.
Donc longue carrière.
Il y a plein de titres aussi.
Voilà. Enfin, même si Hakim, effectivement, mais oui.
4 titres.
Mais non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur.
Non, non, bien sûr.
Et on compare deux joueurs.
Différents. Tu compares deux joueurs différents. Il y en a un qui c'est la puissance incarnée.
Non, mais
domination totale.
Intrinsèquement, oui, Hakim, il est plus fort.
Et après,
il y a pas
oui,
de problème.
Techniquement, il n'y a pas photo,
il
je veux dire.
Les
le seul mec qui peut parler les yeux dans les yeux avec la Juwan, c'est le numéro 1.
Ouais, c'est ça.
Techniquement,
oui,
en fait, on est d'accord. Techniquement,
techniquement, on est arrivé là.
Alors, le numéro 1, mis en première place par moi et Buffa. Numéro 2 par Mehdi. Et numéro 3 pour Bruno et Baptiste, c'est Jokic.
Ouais, mais là, on compare à un joueur actif.
Actif, ouais.
Et des joueurs qui ont déjà arrêté.
Donc, alors,
déjà
vas-y,
compliqué.
Alors, explique pourquoi. T'as 30 secondes pour expliquer pourquoi Jokic peut pas être numéro 1 pour toi.
Et top.
Parce que c'est trop récent, à mon avis. Tu peux pas comparer ce que l'énumération que nous a fait Mehdi sur Olajuwon ou ce qu'on pourrait faire sur O'Neill.
Déjà, tu peux déjà lui mettre des titres de MVP.
Ouais,
ça reste, ça part pas.
Mais je crois que j'ai la réponse au problème. C'est qu'on aurait dû faire un classement des joueurs non actifs, en fait.
Mais non, mais moi, moi, après, tu vois, les trois, tu mets Jokic, O'Neill et Olajuwon. Je veux dire, on se trompe pas.
Ouais, voilà, exactement.
On est,
de toute façon, ils sont
mettent en 1, 2 ou en 3.
Entre les trois premiers et les autres, il y a un monde, en fait.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais une fois, toi, Olajuwon, il a déjà...
Mais Jokic, il a quand même révolutionné aussi le poste de pivot.
Ah oui,
c'est clair.
Le mec, sa moyenne tous les soirs, c'est de faire un triple-double.
C'est clair.
On a vu ça, là.
C'est là que moi, je le mets numéro 1. C'est parce que Jokic, c'est pas un joueur, c'est une plateforme. C'est une plateforme de basket, le mec. Le mec, c'est
tout.
Un concept.
C'est un concept, c'est ça. C'est un concept.
Le gars, il irradie tellement sur l'équipe. Alors, effectivement, le point négatif qu'on peut mettre à Jokic, c'est la défense.
Bah voilà.
Parce qu'il n'est pas, effectivement, comparé à Olajuwon. Tu me dis qui est le meilleur défenseur tous les jours, je te dis Olajuwon.
Et puis, Shaquille O'Neal, par son physique, il impressionnait aussi. Mais voilà. C'était pas le plus grand défenseur du monde.
Mais en termes de talent pur et de technique, est-ce qu'on a vu un mec avec des meilleures mains que Jokic?
Non.
C'est ça.
Mais le pire, c'est tout. Que je te dirais que même parmi les meneurs de jeu, je suis pas sûr que
non, les 90%
des joueurs...
Il y a des meneurs qui doivent se poser des questions des moments. Hein,
c'est déconner,
tu sais quoi, moi, Jokic, je pense que tu peux le trader dans n'importe quelle franchise. Il sera joué avec...
Il fera le taf.
Ouais, exactement.
Parce que c'est un excellent joueur de basket.
On est bien d'accord.
Ouais, bien sûr.
En tout cas, effectivement, des débats. On peut mettre les trois premiers dans un endroit différent.
Oui.
J'entends les arguments.
C'est un mouchoir de poche.
C'est vrai, quoi. Mais on voit quand même que...
Là, on parle
des des trois premiers. Ouais.
Même dans les 10 ou même ceux qu'on a cités, on parle de l'élite, de toute façon, des joueurs. Donc, bon.
C'est le top tier, là, complètement. Oui.
Mais Olajuwon est le meilleur, quand même.
Oui, Mehdi.
Merci.
Après, pour Jokic, un dernier point pour dire, pour relativiser aussi... Effectivement, il y a eu ces gros affrontements avec Embiid dont on a parlé un petit peu dans la chronique.
Oui, effectivement, c'est.
Mais derrière, aujourd'hui, qui peut tenir Jokic?
Bah, Anthony Davis quand il est pas blessé, mais c'est un super joueur aussi, Anthony Davis.
Ouais, mais il a...
Ouais, on l'a même pas cité, tu vois, dans les mentions.
Parce que
ils sont affrontés, affrontés. Davis a pas pu ralentir Jokic.
Bon, ralentir, c'est pas le mot, parce qu'il va pas bien vite quand même. Hein.
Et boum, pas croire, pareil. Voilà. C'est des faux lents, tous ces mecs-là. C'est des faux lents.
Ok. Messieurs, c'est pas mal tout ça. On va pouvoir être
on est bon, là.
Du coup et enchaîner sur le buzzer beater.
Allez, buzzer beater. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home.
Lillard, long range three. Notre buzzer beater du jour aujourd'hui, la trade deadline peut-elle sauver la saison NBA? Pourquoi?
Parce que les dossiers chauds patates avant la deadline de jeudi, minuit, on va réexpliquer quand même ce que c'est que la trade deadline. Un peu de pédagogie.
C'est 21h la trade deadline de jeudi. Parce que c'est heure américaine, donc ça doit être finir à 15h, je crois.
Ouais, mais c'est parce qu'en général, souvent, on n'a pas les informations tout de suite.
Parce qu'ils ont minuit, on a les infos. Ils signent à moins 5.
Vas-y, Bruno, tu peux nous expliquer ce que c'est que la trade deadline, juste pour expliquer dans les grandes lignes.
C'est la date limite à laquelle les équipes peuvent. Les équipes peuvent faire des échanges de joueurs
via plein de règles. On peut ajouter des tours de draft sur les échanges, mais c'est surtout au niveau salaire.
Il faut qu'il y ait des équivalences au niveau salaire, au minima. Et puis après, ils gèrent ça. Il ne faut pas qu'ils soient dans la pénalité au niveau financier aussi.
Ouais, les imprimes, tout ça. Donc, c'est un montage financier. Mais ceci dit, de toute façon, on est tous d'accord pour dire que cette deadline de jeudi, qui a déjà commencé quand même, les transferts ont déjà commencé un petit peu plus tôt, ça concerne cette année des joueurs qui potentiellement ont la capacité d'inverser le cours d'une saison.
Oui.
Et surtout s'ils atterrissent au bon endroit. Jugez plus tôt. Et non. Yanis, Jamorant, Anthony Davis, Kat, Tyler Herro, Jimmy Butler ou encore Draymond Green. Donc c'est des noms quand même super connus. C'est des noms qui reviennent dans les rumeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être tradés. On pourra ajouter DeRozan, parce que DeRozan, ça a été annoncé tout à l'heure.
Il est sur la...
C'est buyout. C'est-à-dire que les Kings ont déjà dit, à la trade deadline, on le coupe, il va ailleurs. Mais même si on ne l'échange pas, il va pouvoir signer ailleurs. Donc il va avoir un buyout. Et donc, on ne va pas évoquer le cas de Trae Young parce qu'on l'a déjà fait. C'était le premier gros transfert de la saison, enfin de l'intersaison.
Qui n'a toujours pas joué.
Mais on va commencer par, parce qu'il y a eu quelques bombes déjà, on commence par la bombe de la nuit dernière et James Harden qui file à Cleveland comme pressenti en échange de Darius Garland et d'un deuxième tour de draft qui atterrissent aux Clippers. Ça vous inspire quoi, ce changement assez étonnant?
Que quand Cleveland ils vont jouer, il va falloir mettre deux ballons sur le terrain.
C'est ça.
Et Donovan Mitchell
il veut gratter une bagouze.
Ils mettent c'est all-in quoi.
C'est court terme.
S'ils gagnent pas cette année,
il servira plus à rien.
Ça va être compliqué. Après, les Clippers voulaient pas signer un gros contrat parce qu'il arrive à la
fin. C'est pour des raisons financières.
Des raisons financières, ils voulaient se libérer du contrat de Harden.
Ils voulaient 2 ans à 80 millions et les Clippers ils ont dit non. Tu t'en vas. Après, Harden c'est un super joueur.
Non, c'est pas le terme.
Il te met des cartons.
Non, il te met des cartons. Il peut avoir des coups de chaud, mais il peut aussi avoir des gros trous d'air.
C'est un peu comme ce que tu as dit tout à l'heure.
Il y a 42% en shoot.
C'est un super bon joueur, mais on l'a vu à des.
Avec des travers, quoi. On l'a vu à très
ouf
niveau.
Que ça, ouais.
Oui, bien sûr.
Et puis il est un peu instable quand même, hein, parce qu'il demande toujours à être tradé.
Alors là, il a fait une lettre pour dire que c'était pas lui qui avait demandé, en fait. Là visiblement, c'est plus les Clippers qui, comme tu as dit, pour des raisons financières. Garland aux Clippers, est-ce que ça peut matcher, sachant que le mec est toujours blessé quand même. C'est dommage, il a du talent.
Par contre, ils rajeunissent les Clippers d'un coup. Moyenne d'âge, elle a pris.
Parce qu'il est jeune, Garland encore.
25, 26.
Ouais, 25, je crois. Donc, en tout cas, on va voir si.
Il va avoir une collection de maillots.
Ouais, c'est clair.
Il en aura fait des franchises.
Mais c'est la question un petit peu de Cleveland. On savait que ça claudiquait depuis un petit moment. Ça se mettait pas en marche. Bon, ils ont tenté quelque chose. Au moins, ils ont le mérite.
Là, ils ont tenté.
Voilà. On passe à un des deux autres gros transferts qui concerne les Celtics et les Bulls, puisque Vucevic va apporter ce grand qui manquait à Boston, tandis qu'Anfernee Simons va venir s'empiler chez les arrière-meneurs déjà nombreux des Bulls. Les deux équipes échangent un deuxième tour de draft. Bruno, Vucevic est content?
Moi, je trouve que c'est bien, ouais. Et en plus, pareil, niveau contractuel, il gagne un peu sur le salaire. Vucevic, s'il veut rester dans l'équipe, là, son contrat se finit à l'été. D'accord. Donc, ils peuvent très bien lui dire, tu veux rester dans une équipe avec du potentiel, tu veux essayer de gratter une bague,
ça marche pas en plus. Ils ont le temps de voir s'ils s'intègrent à la philosophie.
Tu signes un peu plus bas, quoi.
Ouais.
Et puis, ils s'allègent encore au niveau financier, les Celtics.
Ils ont bien dégraissé.
Ouais, les Bulls.
En restant compétitif, parce que là, tu rajoutes le grand qui leur manque un peu. Parce que Keita, il est très bon, mais c'est un pivot défensif.
Moins de défense. Pas par rapport à Anfernee Simons. Ça change pas grand chose, mais.
En plus, il s'intègre bien dans le système de jeu.
Pareil que c'est un gars.
C'est aussi un shooter à 3 points. Donc,
puis il est sympa quand même.
C'est un gars qui est assez bien. Bien aimé dans les vestiaires.
Ok, donc on verra vite si Celtics, de toute façon, ils vont pas être moins bons normalement.
Et ça y est, c'est la fin officielle des Bulls du trio.
DeRozan, Lavine. Il était temps. Premier coup de semonce avait été envoyé plus tôt dans la journée hier par les Grizzlies, puisque Jaren Jackson Jr. tradé à Utah dans un échange à 8 joueurs et plusieurs premiers tours de draft pour Memphis. On n'a pas trop compris en fait ce move, je sais pas. Moi, Jaren Jackson Jr. à Utah, peut-être pour Utah c'est bien, mais Utah.
Alors moi, je pense que Memphis essaye de se reconstruire complètement.
Ah, capital
draft. Parce que là, ils sont arrivés, ils ont combien ? Ils ont 12 tours de draft.
Enfin, Desmond Bane déjà l'été dernier.
Ah, ils ont des tours de draft à plus savoir quoi faire. Quand faire.
12, je crois.
Ouais.
Et puis apparemment, comme la demande n'est pas très forte sur Ja Morant, ils vont peut-être le brader. Enfin, apparemment là.
Ah ouais.
Ils vont.
Là, ils veulent s'en débarrasser.
Il faut qu'ils partent là.
Ouais. Avant ça, justement, donc on suivra un petit peu la suite.
Après Utah, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Il faut qu'ils fassent venir. Ils peuvent pas faire les agents libres. Ils viennent pas à Utah. Donc il faut faire des trades.
Faut faire des trades.
Pour faire venir les gros joueurs.
Oh, alerte trade.
Non, vas-y.
Anthony Davis vient d'arriver à Washington.
C'est une blague.
Non, non.
Direct.
Enfin. Bah, je sais pas où c'est ton fils qui me fait une blague. Mais... Alors,
D'accord, ok. Bah, tu vas vérifier quand même les sources.
Wizard. Ouais. Ouais. Mais c'est quoi le deal aussi? Qu'est-ce qui part?
On sait rien. Ouais. Middleton. Il change les vieux, les gars.
Il est changé tout le temps.
Alors, j'ai
Dallas. Dallas,
c'est
Dallas.
Fou, hein. Bon, on continue.
On a fêté l'anniversaire du trade
de. C'est que ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Jaden Ivey qui prend la direction de Chicago, voilà aussi pour venir compléter les arrière-meneurs, en compagnie de Mike Conley qui pourrait être coupé. Détroit récupère Kevin Werther. Dario Saric et un swap au premier tour 2026 en provenance de Minnesota. Les Wolves ont participé à la transaction qui s'est faite. Moi, je n'ai pas trop compris dans ce pareil. Ivy, c'est un joueur prometteur.
Ouais, il ne gardait pas.
Ah ouais, pour faire venir un deuxième Duncan Robinson. Alors, toi, tu trouves que c'est légitime? Moi, je trouve que quand tu as Duncan Robinson, tu n'as pas besoin de Kevin Werther et c'est les copies en moins bon.
Ouais.
Non,
je sais pas. Moi, c'est pour plus, à mon avis, ça va être le backup de Robinson. Bon. Je pense que quand il y en a un qui va être sur le terrain, pas l'autre, et inversement. Parce qu'au niveau de 3 points, je te dis, ils ont vraiment besoin d'un autre shooter à 3 points. Et t'as raison, hein, pour revenir, hein, les Dallas, il y a Chris Middleton qui arrive.
Ah, c'est pas
c'est Chris Middleton,
je te jure.
Il faut que ça matche au niveau salaire, au niveau âge et tout ça.
Voilà, juste ça, c'est juste ça.
Non, non, il y a des tours de...
De draft, d'accord.
Ah, on pensait à Nico Harrison.
Tiens, il va être content avec ça.
Oh là là, ah ouais, les...
ouais, c'est un coup dur pour avec ça. Bon, c'est toujours le futur.
Ouais, il sera franchise.
Ouais. On termine par il y a quelques jours un trade qui est plus d'actualité chaude, mais Schroeder.
Ah, je le disais.
Attends, du monde.
Il en est où, lui?
Il poursuit son tour du monde chez les Cavs. DeAndre Hunter parti découvrir l'enfer des Sacramento Kings. Et lui, donc, c'est quoi, 12e, 11e, 12e équipe? C'est plus énorme. C'est énorme.
Il va être arrivé à la moitié des équipes NBA.
Bah, il fait deux équipes par saison, le mec, au minimum.
Il est bon.
Voilà. Donc,
c'est une bonne monnaie d'échange. Quoi.
Je ne comprends toujours pas comment ce mec arrive à traverser comme ça les États-Unis. Et tout va bien.
Au frais de la princesse.
Il faut être fort.
Le mec, il voyage tout le temps.
Dans sa tête, il faut quand même être fort.
Non, chérie, défais pas les valises.
Ouais.
C'est un mercenaire.
Regarde.
Défais pas les cartons.
La NBA, c'est différent. Tu peux pas dire que le gars soit un mercenaire. C'est parce que là, t'es une monnaie d'échange, quoi. Faut accepter que t'es.
Les gars, ils n'ont pas leur mot à dire.
Ouais, tu me dis, oui, il y a de ça. Mais le
t'es en contrat. Le contrat que tu signes, en fait, tu le signes pas avec une franchise. Tu le signes avec la NBA, quoi.
Ouais.
Et après, bah.
Les gars, il nous reste une minute pour évoquer le cas le plus épineux de la deadline. Yanis.
Moi, je pensais que tu allais parler de Yabusele. Hein. Est-ce que notre Yabou national, il va revenir en Europe
ou... Mais non, mais Yanis, là, tout le monde se pose la question. Est-ce que. On sait bien, en plus, que si Yanis, ça a tombé là, tu vois, dans les prochaines heures.
Ouais, mais. Où va atterrir à un moment donné.
Normalement, c'est pas un joueur qui est très. Enfin, on a dit ça avec Doncic, mais. C'est pas un joueur normalement. C'est les superstars, c'est pas la trade deadline, quoi. Ouais. C'est l'été que ça.
Alors il continue.
Tu dis où, toi? Il finit où? Vas-y. Tu dis où?
Moi, je dirais Golden State.
Golden State, toi?
Minnesota, là.
Et avec Draymond Green.
J'irais comme WAM, moi.
Ils envoient Draymond Green et puis Butler. Et Draymond Green, fin d'année, il finit son contrat, il va re-signer l'été prochain aux Warriors au minimum.
Ah oui, au minimum, c'est impossible.
Parce que je dis qu'il reste à Milwaukee.
Mais je pense que c'est l'option. Je vois pas ce que les.
Il a fait des déclarations à la con.
Oh oui.
Il est toujours en train de brouiller des pistes. Ah, j'adore ce club.
Il dit tout et son contraire.
Et en même temps, peut-être que je parte. Ouais, mais je veux rester. C'est pas moi qui demande. Mais bon, vas-y, à un moment.
J'adore Milwaukee.
C'est un choix, parce que là. Moi, je pense qu'il parte tout court parce que ça colle plus.
Bah oui,
à un moment donné.
Pas compétitif en 2037.
Voilà.
Les Bucks, là. Donc.
Ouais, puis alors, son prime, c'est maintenant.
Je continue à espérer secrètement dans mon fort intérieur que Patoche réussisse enfin à faire un bon nom. Trade,
ça serait quoi le hit? Ça serait Tyler
Herro, Terry Rozier, si on peut le dire.
Terry Rozier, des jeunes
et des tours de draft.
Raquez. Ah bah,
pendant un moment, il y avait la rubrique, il y avait la rumeur, il y avait lui, il y avait Raquez, ouais. Il y avait Wiggins, il y avait toute l'équipe.
Tu te dis.
Il y avait, okay, d'accord. Il y avait Giannis et Adebayo.
C'est deux, les gars.
Les deux premiers tours de 2030 et 2032.
On verra ça. Prochaine émission, on verra ce qui s'est passé.
On fera un bilan.
Et on fera le bilan du All-Star Game. Non, je déconne. Prochaine émission le 18 février avec Mehdi à la prod et Bluffo aux manettes. Et puis bah, toujours la team. Mais merci messieurs, c'était un plaisir.
C'était parfait.
Vous avez, vous avez un petit coucou à faire hein, parce qu'il n'y a personne qui arrive au studio, là, a priori.
Non, suivez le Château Blanc, suivez Gras du Graphite et puis suivez effectivement les podcasts qu'on va vous laisser sur les réseaux. C'est important de Money Time.
Voilà, super. Bruno, un petit coucou à quelqu'un.
Bah, coucou là, aux neveux, nièces aussi, là, qui y a plein d'anniversaires là, début février. Donc,
tout le temps février.
Ouais, tout
février, mars, c'est.
Grosse période.
Ouais, ça marche.
Bon, les meilleures personnes sont nées en février, c'est bien connu.
Non,
en
janvier. Bon, on rappelle ça.
En mars.
En mars, les gars. Mars.
Ah ouais, toujours la même chose, aller dans les salles, aller supporter les équipes, aller crier, aller.
Dans le respect.
Dans le respect, dans, le jeu, dans la joie.
Ah, et la bonne
aller faire tourner les buvettes, les clubs en ont besoin.
Ok, bah, voilà. Allez faire tourner la buvette. Ciao à tout le monde.
Salut, poteau.
Salut.